Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Adressons-nous à notre Dieu. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. 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 Tu es bon, Seigneur.
Il n'y en a point comme toi, Seigneur. Ô mon Dieu, et c'est à toi que nous nous adressons ce matin. Nous te louons, nous te bénissons. Tu as tant fait pour nous. Tu nous as lavés, tu nous as rachetés, tu nous as donné la vie éternelle gratuitement. Et maintenant, Seigneur, nous chantons pour te remercier, pour t'adorer à cause de l'œuvre accomplie en notre faveur. Dieu puissant. Dieu éternel, Dieu saint, aide-nous, Seigneur, à mieux te servir. Parle-nous encore, Seigneur, pour nous instruire. Nous avons besoin de connaître ta volonté pour notre vie de chaque jour et notre marche sur les voies de l'éternité. Ô Jésus, nous avons soif de toi. Révèle-toi à nous encore par ta parole. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde bien spécial. Jamais des choses semblables se sont passées à travers, sur cette terre, si ce n'était localement parlant. Mais maintenant, tout touche l'ensemble de notre planète, dans sa gérance, dans ses affaires, dans sa politique. Notre monde tout entier se pose la question, quel va être notre avenir? Quel va être l'avenir de nos enfants? De ceux que nous allons laisser derrière nous? Quel espoir y a-t-il au milieu de ce monde qui aujourd'hui cherche sa voie? Il cherche sa voie, mais il cherche sa voie dans une fausse direction. Nous avons laissé Dieu de côté. Nous avons laissé la parole de Dieu de côté. Nous ne voulons même plus la considérer. Elle n'a pas de place au milieu de notre société, ni au milieu de nos parlements et de nos réunions de décision, nos réunions où, ensemble, nous cherchons à solutionner les problèmes. Et plus nous cherchons, plus nous enfonçons. Car la sagesse n'est pas dans le cœur de l'homme pécheur qui a laissé Dieu de côté. Depuis plusieurs semaines, nous parlons de cette fin des temps dans lesquels nous vivons et des caractéristiques qu'il y a dans notre société aujourd'hui. Dieu parle à travers sa parole. Puissions-nous écouter sa parole et la mettre en pratique dans nos cœurs et dans nos vies. J'aimerais lire avec vous quelques paroles qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe au chapitre 25, à partir du verset 9. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les yeux des hommes sont voilés. Leur entendement est obstrué. Où les hommes ont perdu même le sens véritable du vocabulaire qu'ils utilisent. Aujourd'hui, nous nous prétendons être dans une civilisation éclairée. Et nous prétendons être des hommes sages alors que la folie nous gagne de plus en plus. Et que nous avons voulu changer tous les principes fondamentaux de la société. Et nous appelons cela liberté, alors que nous sommes de plus en plus esclaves. Lisons ce qui est écrit ici dans Ésaïe au chapitre 25, à partir du verset 7. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu. Celui, c'est en lui que nous avons espéré. Et c'est lui qui nous sauve, qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a espoir. Espoir dans un monde sans espoir. Mais notre espoir ne repose pas sur les rudiments du monde. Notre espoir ne repose pas sur la sagesse des hommes. Notre espoir ne repose pas sur la politique. Notre espoir ne repose pas sur les dirigeants de ce monde. Notre espoir ne repose pas sur la réussite économique que nous essayons d'atteindre ou la croissance économique. Notre espoir repose sur le rocher des âges, Jésus-Christ le Seigneur. L'Éternel en qui nous avons espéré, soyons dans l'allégresse. N'ayons pas un visage abattu. Ne soyons pas des hommes et des femmes désespérés qui paniquent à cause de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, que ce soit dans notre pays ou que ce soit ailleurs à travers le monde. Non, levons nos têtes, car notre délivrance approche. Jésus reviens bientôt. Oui. L'Éternel en qui nous avons espéré, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Il nous a offert le salut gratuit. Il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Frères et sœurs, ne perdons jamais cela dans nos pensées, dans notre esprit. Nous sommes des privilégiés, nous qui avons cru. Et si nous n'avons pas encore cru, la porte est ouverte à celui qui croit. Puissiez-vous l'accepter et le recevoir encore, alors que nous sommes à la fin des temps. Les hommes, comme je l'ai dit, ont un voile devant les yeux. Ils ne comprennent plus. Ils ne savent plus prendre les bonnes décisions. Ils ne savent plus agir selon la vraie sagesse. Ils essayent, mais ils ne réussissent pas. Les hommes ont un voile devant leurs yeux. Leur entendement est obstrué. Par exemple, ils appellent gloire ce qui n'est pas gloire. Ils appellent saint ce qui n'est pas saint. Aujourd'hui, le vocabulaire que nous utilisons a perdu de son sens. Alors que nous pensons être plus sages et plus intelligents que les générations du passé, nous ne donnons plus la signification aux mots tels qu'elles devraient être. Et notre démonstration à la suite de l'expression que nous donnons, la démonstration est négative et non pas positive. On appelle saint ce qui n'est pas saint. On appelle sacré ce qui n'est pas sacré. Vous savez que dans nos sociétés, nous avons des lieux dits sacrés. Nous avons des arbres dits sacrés. Nous avons peut-être même des sources dites sacrées. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit au Congo, à travers l'Afrique, nous avons perdu le sens des mots. Et on appelle sacré ce qui n'est pas sacré. Là où se trouvent des idoles et des faux dieux. On appelle sacré ce qui n'est pas sacré, mais qui est souillé. Souillé parce que contraire aux principes et aux commandements de Dieu. Souillé parce que dominé par l'occultisme. Dominé par l'idolâtrie. Nous appelons liberté ce qui n'est qu'un esclavage. On prétend être libre, mais on est esclave. Esclave de ses passions, esclave du péché, esclave de toutes sortes de choses qui nous dominent. En ayant le mot liberté dans la bouche, nous nous prétendons libres, libres de faire de nous-mêmes et de notre vie ce que nous voulons, alors que nous sommes esclaves de Satan. Le mot n'a plus de sens. Nous appelons amour ce qui est bestialité et dépravation. Le mot amour a perdu son sens dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons perdu le sens de ce qu'est le véritable amour. Nous appelons justice ce qui est injustice. Vérité, ce qui est mensonge. Notre vocabulaire même est complètement transformé selon notre propre fantaisie d'hommes qui veulent pécher. D'hommes qui veulent pécher. On affirme beaucoup, avec beaucoup de passion et de sincérité, ce qui est erreur et fausseté. Nous voyons dans notre monde des hommes qui affirment des choses avec beaucoup de sincérité, mais qui sont entièrement dans l'erreur et dans la fausseté. J'ai rencontré des gens qui disent « il suffit d'être sincère ». Je dis « non, il ne suffit pas d'être sincère ». On peut être sincère dans le mal, sincère dans l'erreur, sincère dans le mensonge, parce que ignorant, ce n'est pas la sincérité qui nous sauve, mais c'est le salut de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et beaucoup d'hommes et de femmes se contentent d'être sincères, mais sincères dans des abominations que Dieu réprouve. Pour vous dire que notre vocabulaire est devenu complètement faussé. La compréhension est faussée. Nous ne comprenons pas comme nous devrions comprendre. Notre intelligence est oblitérée. Notre intelligence est bloquée. Parce que nous jugeons les choses selon un critère humain de notre culture, de notre façon de vivre aujourd'hui dans le monde, de la philosophie des hommes. Et c'est ainsi que notre compréhension est faussée. Le raisonnement est déséquilibré. Nous avons un faux raisonnement, car nous ne sommes pas inspirés par le Saint-Esprit. Nous sommes simplement inspirés par nos convoitises personnelles, charnelles, intéressées et autres. Nous avons un raisonnement déséquilibré. Les valeurs sont renversées. Et aujourd'hui, c'est un véritable problème pour notre jeunesse. Afin de comprendre, harcelés qu'ils sont déjà à l'école par des philosophies sataniques. Et bien souvent dans des églises où l'enseignement est un enseignement complètement tordu, qui n'est pas démontré par des vies transformées, changées, par un exemple. Et on devient fanatique dans notre monde d'aujourd'hui, méchant, intolérant. On viole les commandements de Dieu et on pense lui être agréable. Nous voyons dans notre monde cette aberration épouvantable. de ceux qui pensent être agréables à Dieu en détruisant les autres, d'être agréables à Dieu en violant ses commandements. On le fait bien souvent par ignorance, mais cette ignorance n'est même pas connue par l'individu. On croit savoir et on est ignorant. Voilà l'homme qui se perd. Chaque fois que l'on laisse Dieu de côté et qu'on sert les idoles, soit des idoles faites de main d'homme, soit des idoles cachées dans le cœur, on est des hommes avec la vision complètement voilée, l'intelligence complètement tordue, si je puis dire. Et on ne réalise pas qu'on est des ignorants, quoiqu'avec des diplômes même de doctorat dans la poche. Frères et sœurs, la plus grande connaissance est celle de la parole de Dieu et de marcher avec le Seigneur sur les chemins de l'éternité. La connaissance que donne le monde est une bonne chose, certes, mais cette connaissance, elle doit passer par le critère de la parole de Dieu. Et tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, nous devons le rejeter. Nous devons avoir un esprit critique, nous, enfants du royaume. Nous ne sommes pas là pour avaler n'importe quoi. Dieu nous a ouvert l'intelligence par sa parole, par son esprit, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Aujourd'hui, on opprime et on est asservi. Asservi par des intérêts personnels. Et à cause de cela, au lieu d'être des hommes et des femmes qui donnent la vie, nous sommes des hommes et des femmes qui donnons la mort de l'âme, la mort de la société, la mort de l'économie, parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes et nos propres intérêts, plutôt que d'être centrés vers la justice divine, la droiture divine, et d'aimer notre prochain. Dieu mettra un terme un jour à la folie aveugle et dévastatrice de l'humanité. Dieu dira « c'est assez ». Dieu a laissé l'homme gérer cette planète Terre et de plus en plus il la gère terriblement mal. Terriblement mal. Il a un voile sur ses yeux, un voile sur son entendement et il ne saisit pas ni ne comprend la pensée de Dieu. Il ne se voit que lui-même et du reste, Dieu, il l'a éliminé. Il veut tout expliquer de façon rationnelle. Il veut tout expliquer. Et pour cela, il invente toutes sortes de théories qu'on appelle scientifiques. Et il ne croit pas à la création du Dieu vivant. La création du Dieu vivant. Quand on voit la merveille de la création, la merveille du corps humain, la merveille de la nature, la merveille de l'espace. Il n'y a pas de hasard dans toutes ces choses-là. Mais l'homme rejette Dieu. Il est aveuglé par son orgueil. Il pense mieux savoir. Ésaïe 25, 8 nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, « Il anéantit la mort pour toujours. » Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Combien de fois nous voyons cette expression ? L'Éternel a parlé, car l'Éternel a parlé. C'est comme si Dieu veut insister. Moi, j'ai parlé, j'ai décidé, et cette chose se passera. Cette chose est réelle, elle sera exécutée, car l'Éternel a parlé. Il anéantit la mort pour toujours, la mort qui est une malédiction à cause du péché. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Oh, que de pleurs dans notre monde aujourd'hui, que de pleurs à cause de ceux qui perdent leurs enfants dans des guerres fratricides. Que de pleurs à cause de la maladie, que de pleurs à cause de l'infidélité de ceux qui s'aimaient et qui aujourd'hui se haïssent. que de pleurs à cause des enfants laissés pour compte dans les rues et que sais-je encore, que de pleurs et de peine au cœur lorsqu'on voit son prochain souffrir, souffrir à cause du péché des autres, car chacune de nos actions porte à conséquence. Et c'est ça que nous devons savoir. Il y a une conséquence à nos actions, en tant qu'individus. Qui que nous soyons, plus nous sommes élevés dans la hiérarchie de ce monde, dans les décideurs de ce monde, plus nos actions ont d'influence sur les autres. Et chacun d'entre nous, nous aurons à rendre compte devant Dieu. Il essuie les larmes de tous les visages. Que de pleurs aujourd'hui et que de larmes en secret, de larmes au fond du cœur, de larmes qui sortent des yeux. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. Savez-vous, frères et sœurs, que ce dimanche, aujourd'hui, le 16 novembre 2008, c'est la journée internationale de l'Église persécutée. Il y a 2 jours de l'année qui sont réservés pour se souvenir de l'Église persécutée. Le 9 novembre, c'était dimanche dernier, et ce dimanche, le 16. Dans plus de 60 nations du monde, les chrétiens n'ont pas la liberté de confesser que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Plus de 60 pays du monde, près de 2000 chrétiens sont emprisonnés aujourd'hui en Érythrée, sur le continent africain. Des milliers de chrétiens en Inde ont perdu leur maison, ont perdu leurs biens. Des centaines d'églises ont été incendiées en Inde actuellement. Et leur vie, ils ont perdu leur vie, beaucoup d'entre eux, suite à de multiples attaques antichrétiennes. Savez-vous que des milliers de chrétiens de toutes dénominations fuient l'Irak en abandonnant tous leurs biens, particulièrement dans la ville de Mossoul et toute cette région. Et des milliers ont déjà été tués de sang-froid par des fanatiques parce qu'ils sont chrétiens. Ils s'enfuient où ils peuvent sans avoir quoi que ce soit, en abandonnant tous leurs biens qui sont saisis par leurs persécuteurs. Plus de 100 millions de chrétiens font face à la persécution aujourd'hui, à la discrimination du seul fait qu'ils suivent Jésus-Christ, du seul fait qu'ils prétendent servir Jésus-Christ. Oui, mes frères, le moment vient où enfin tout combat, toute guerre, tout conflit, toute persécution finiront pour toujours. La guerre, quelle qu'elle soit, est une malédiction. La guerre, quelle qu'elle soit, est une malédiction. La guerre sainte n'existe pas. La guerre sainte n'existe pas. Comment une souffrance, des blessures atroces? Comment des mutilations, des destructions terribles infligées même à l'ennemi peut-être une source de joie et être considérée comme saint? Comment nous avons perdu le sens des mots? Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ne maudissez pas, mais bénissez. L'amour est plus fort que la guerre. L'amour est plus fort que toutes les puissances sataniques. Si nous vivons la vie de Jésus-Christ, et si nous le servons en vérité, nous sommes plus forts que toutes ces puissances sataniques. La guerre est l'œuvre du diable. La guerre sera toujours la manifestation et l'expression du péché et de la malédiction. Cette terre a toujours connu des guerres avec des ravages terribles. À travers les siècles passés, quelle est la nation qui n'a pas connu des guerres locales, des guerres entre nations, avec des souffrances terribles et incroyables, accompagnées d'épidémies, avec des innocents qui souffrent et qui payent, qui souffrent de la faim, des guerres avec des pillages. N'est-ce pas une chose terrible quand des hommes d'un même pays pillent leurs propres ressortissants, abusent de toutes sortes de façons et violent? Oh, n'est-ce pas là une malédiction? Quel gain pouvons-nous avoir lorsque nous nous comportons de la sorte? Quel bénéfice pouvons-nous avoir et en remporter pour le pays ou pour la société? Ce n'est que du gaspillage, ce n'est que de l'ordure, et il n'y a aucun honneur dans ces choses-là. Oh, mes frères, une paix universelle s'installera à travers le prince de la paix, et lui seul, et lui seul. Lui seul a le pouvoir de donner la paix à cette terre. Car, psaume 46, verset 10, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Voilà. Il fait cesser les combats. Aucun homme sur cette terre n'a le pouvoir de faire cesser les combats. Quand vous admettez la guerre, quand vous laissez la guerre aller de l'avant avec des troupes bien entraînées ou mal entraînées, le résultat reste le même. La mort, la destruction, la folie. C'est lui seul qui peut faire cesser les combats. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas une organisation quelconque. Non, le prince de la paix. Il a engagé un combat dans les domaines éternels afin de nous délivrer du joug du serpent. Il est venu pour lui écraser la tête. Je répète ce passage que nous avons médité dimanche dernier. Genèse 3, 15. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Il est l'homme fort par excellence, celui qui écrase la tête du serpent. L'homme fort par excellence, il était seul lorsqu'il a été pendu au bois. Il était seul à mener ce combat. Et Dieu avait bien dit, tu lui écraseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Il a été blessé pour nous. À la croix de Golgotha, blessé, martyrisé, battu, couronné d'épines, percé, mis dans un tombeau. Mais la mort ne pouvait pas le tenir. Et il est sorti du tombeau plus que vainqueur, alors que le serpent ancien a la tête écrasée. Oui, il a la tête écrasée. Vous avez reçu par le Saint-Esprit autorité sur les puissances des ténèbres, sur la puissance de Satan, sur les mauvais esprits. Vous avez reçu autorité. Oui, il réagit, mais c'est comme un serpent qui a la tête coupée. Il gigote encore. Laissez-le gigoter, mais sa tête est coupée. Oh, merci Jésus. Celui qui écrasa la tête du serpent et ôta la malédiction sera un homme de la semence d'Abraham. Car Dieu lui a dit ceci dans Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. La promesse avait été faite dans le jardin d'Éden. Cette promesse devait se réaliser, mais ne pouvait se réaliser parmi des peuples avec des multiplicités de dieux. Non, Elle ne pouvait se réaliser qu'à travers des hommes et des femmes qui croiraient dans le Dieu unique. Avant Abraham, il y en a eu. Dieu a toujours gardé un reste. Un reste. Noé et d'autres. Jusqu'au moment où Dieu s'est révélé à Abraham qui a cru dans le Dieu unique et qui a reçu les promesses. Car de cet homme est sortie une nation. Une nation qui souvent a été rebelle, mais dans laquelle il y a toujours eu un reste de fidèles. Et c'est à travers ces fidèles qu'il s'est révélé au monde. Cet homme fort, annoncé déjà dans la Genèse, sera de la tribu de Juda. Dans Genèse 49, verset 10, il en est parlé. Le bâton du commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, qui a le sens de Messie, et que lui obéissent les peuples. Voilà. Il sera de la maison de David. Dieu dit à David que c'est son fils qui lui bâtira son temple. Et il promet à David, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13, « J'affermirai pour toujours son trône. J'affermirai pour toujours son trône. » Nous savons que Salomon mourut et qu'après lui, le royaume s'est divisé. Salomon avait bien commencé son règne. Il l'a même, malheureusement, mal terminé. Mal terminé, entraîné par la politique de ce monde. Il a fait des multiples mariages, je dirais politiques, pour s'allier à des peuples païens. Et à cause de cela, il a dû tolérer des dieux païens jusque dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Salomon est mort. Ses successeurs n'ont pas pu garder l'unité de la nation. Et le pays s'est divisé. Le royaume du nord et le royaume du sud avec Juda et Benjamin. Beaucoup de rois ont succédé à Juda. En Juda. Ont succédé en Juda. Des fidèles et des infidèles. Jusqu'au temps où ils ont été déportés par les Babyloniens et les Assyriens. Oui, Dieu a puni son peuple à cause de son idolâtrie, mais dans ce peuple, il y a toujours eu des fidèles. Regardez Jérémie et d'autres encore. Regardez Daniel, Sadrach, Mésac et Abednego en Babylone qui n'ont pas abandonné. Où est la promesse de Dieu faite à David envers Israël et la maison de David? N'avait-il pas dit « J'affermirai pour toujours son trône » Qu'est devenu le trône de la maison de David? Alors que Dieu a dit « Il sera affermi pour toujours », cette promesse trouve son accomplissement en Jésus, le roi des rois qui ôte la malédiction. Vous savez que les Israélites ont toujours attaché une grande importance à leur généalogie. Fils de, fils de, fils de, engendra, engendra. Une grande importance à leur généalogie qu'ils n'ont jamais oubliée, quoique déportée dans des pays étrangers. Il y a eu toujours, même dans ces hommes qui ont été déportés, des hommes qui se sont accrochés au Dieu d'Israël, fidèles. Et Dieu les a rétablis. Ils avaient le sens de leur généalogie. Le plus humble membre du peuple savait que Jésus était de la descendance de David. Nous voyons Bartimée. Fils de Timée, mendiant, aveugle, au bord de la route à Jéricho. Il avait sûrement entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, mais il ne l'avait jamais vu forcément étant aveugle. Et même, il n'avait peut-être jamais pu aller en sa présence ou que ce soit qui allait le conduire. Assis au bord de la route, il entend une foule qui passe, et il entend un nom qui revient tout le temps dans cette foule, Jésus, Jésus, Jésus. Donc c'est Jésus qui passe. Qu'est-ce que cela représente pour lui? Avant, il n'était pas là. Maintenant, il est là. Après, il ne sera plus là. Alors, il s'est levé, là, entendant que Jésus passait avec la foule, et il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David !» Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie pitié de moi. Il est de la descendance de David, ce n'est un mystère pour personne. Personne ignore en Israël qu'il est de la descendance de David. Même ce mendiant, Jésus, fils de David, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme parce que né d'une femme, car il a choisi de porter notre humanité et de porter dans son corps d'homme les péchés du monde entier, du passé, du présent et du futur. Fils de Dieu, car, comme Dieu l'avait promis, il sera de la descendance de la femme, sans l'intervention de l'homme. Ce fils devait passer par la souffrance, par le rejet critiqué, rejeté par les religieux. Il devait passer par la souffrance pour le salut de l'humanité, le salut des hommes, et ôter la malédiction en livrant bataille à son plus grand ennemi, seul. Qui l'a soutenu? Qui l'a compris? Même pas ses disciples. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Des centaines d'années à l'avance nous parlent de lui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos souffrances, à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce que Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a exprimé des centaines d'années à l'avance. Et il a dit encore bien plus que cela. Ce serviteur par excellence, ce fils de Dieu, ce Dieu puissant qui s'est incarné dans un corps humain, ce serviteur par excellence dont nous parle beaucoup le prophète Ésaïe, c'est Jésus-Christ le Messie qui est venu pour tout changer, pour tout renouveler et nous délivrer. 1 Corinthiens 15, 26, il est dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. À peine la chute a été consommée par Adam, que Dieu révèle son plan, là, en Éden, son plan pour vaincre Satan et racheter l'humanité. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Sauver l'humanité de la malédiction, de la désobéissance et du péché avec ses conséquences. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, deuxième partie du verset, il est écrit là, Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort, est mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Alléluia. Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort, le dernier ennemi qui sera écrasé, à l'impuissance la mort, est mis en lumière la vie, mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Encore Ésaïe 25, verset 8. Il anéantit la mort. C'est Ésaïe qui le dit. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Oh, je sais qu'on joue aujourd'hui encore, nous pleurons. Peut-être que vous-même, vous pleurez. Vous pleurez à cause de tout ce que vous voyez autour de vous. Vous pleurez à cause de vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous pleurez à cause des violences. Vous pleurez à cause des déséquilibres qu'il y a. Vous pleurez, les larmes sortent des yeux, même sans pouvoir s'exprimer. Les larmes sortent des yeux jusqu'à quand, Seigneur? Mais le jour vient où il essuiera les larmes de nos yeux. Oh, plus de larmes, plus de souffrance. Le plan de Dieu en faveur des hommes arrive à son apogée, à son point culminant. Après le jugement final, quand le roi, le Seigneur, dira à ses élus, dans Matthieu 25, 30, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Oh, merci Seigneur. Où sera donc établi ce royaume? Là où il a été établi dès le commencement, sur la terre, mais une terre renouvelée, d'où la malédiction aura été définitivement ôtée. De quel héritage Jésus parle-t-il? Tout royaume, quel qu'il soit, est composé de terres et de propriétés. Ainsi, la terre renouvelée, ou la nouvelle terre, est la propriété donnée par Dieu aux hommes rachetés. Dieu n'abandonne pas son œuvre première. Il n'abandonne pas sa création ni ses créatures, mais il restaure. Et même, il perfectionne. Le voleur, le destructeur, n'aura pas la satisfaction d'arriver à détruire le chef-d'œuvre du maître. Au contraire, Dieu en sort un chef-d'œuvre encore plus gros, plus beau, plus majestueux, plus perfectionné, à sa gloire, pour le bien de ceux qu'il aime. L'ennemi Satan veut que nous abandonnions Dieu, que nous renoncions au but réel de notre vie et de notre destinée sur la terre. Mais Dieu nous rappelle dans 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne craignez pas, ne baissez pas la tête. Celui qui est avec vous, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous ai donné autorité, autorité sur les puissances des ténèbres, autorité sur les puissances de fétiches et de sorcellerie. Vous n'avez rien à craindre. Satan tremble devant un enfant de Dieu qui prie. Satan tremble devant un enfant de Dieu revêtu de l'autorité d'en haut. Prenez cette autorité par la foi et agissez pour autant que vous marchez avec lui en vérité, en vérité loin du péché et de la rébellion. Satan cherche à détruire la terre. Dieu cherche à renouveler et restaurer la terre et de la remettre à ses enfants. Il est entièrement vainqueur dans cette bataille qu'il mène pour nous et pour la terre. Dieu a un plan de toute éternité. Le plan de Dieu à travers tous les âges est décrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 10. Où il est écrit de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà le plan de Dieu. De réunir sous l'autorité d'un seul chef tout ce qui est sur la terre et qui est dans les cieux. Ici, ce sont des termes expressifs et inclusifs. Rien ne sera laissé de côté. Rien. Tout est-il dit. Nous y voyons la réalisation dans ce que nous dit Apocalypse chapitre 19, duquel nous avons beaucoup parlé ici. L'union de ce qui était séparé à cause du péché. Séparé, la terre et le ciel sont séparés. Nous parlons du ciel, mais qui a été dans le ciel parmi nous? Et si nous avons eu des visions, ce n'est que des visions partielles. La terre est séparée du ciel à cause du péché des hommes. Et même lorsque nous sommes sauvés et transformés par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans une enveloppe qui a été marquée par le péché. C'est pourquoi le corps doit retourner à la poussière. Et en nous, l'homme nouveau recréé par la nouvelle naissance, par la puissance de Dieu, cet homme alors montera dans la gloire et revêtira au jour de la résurrection un nouveau corps tel que Christ a eu après sa résurrection. Oui, Dieu va réunir ce qui a été séparé à cause du péché, le ciel et la terre, sous l'autorité d'un seul chef, Jésus-Christ. La terre et le ciel ne feront qu'un, libérés de la malédiction par le sang de Jésus-Christ le Seigneur. Dieu et l'humanité seront réconciliés en Christ. Nous sommes personnellement réconciliés en Christ et avec Christ à travers la repentance et le salut et la nouvelle naissance. Mais l'humanité n'est pas réconciliée. Elle est en révolte encore jusqu'à aujourd'hui. Elle ne veut pas le reconnaître dans son ensemble. Mais en ce jour-là, l'humanité sera réconciliée en Christ. L'humanité, c'est-à-dire ceux qui ont cru dans le temps et qui ont mis leur vie en ordre avec Dieu. C'est ainsi que Dieu habitera avec les hommes, unis pour toujours, en Christ, dans un univers physique nouveau, avec notre corps nouveau. Si nous nions ces vérités, si nous refusons d'y croire, alors nous sous-estimons l'œuvre de la rédemption. La rédemption acquise par Christ en notre faveur. Cette vérité est trop souvent ignorée, négligée par la plupart des chrétiens et même par trop de prédicateurs. Le ciel est la résidence de Dieu. La terre est notre résidence jusqu'à ce jour. Mais le moment vient lorsque, délivrés de la malédiction du péché, nous qui avons cru serons unis avec Dieu sur la terre nouvelle, délivrés, entièrement délivrés de la malédiction. Jésus, en tant que Dieu homme, nous a rachetés pour Dieu le Père, pour toujours. Et pour cela, unis en une seule entité. Le ciel et la terre. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 10. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Mystère, c'est quelque chose qui n'était pas connu, mais que Dieu a décidé de révéler, de faire connaître aux hommes au moment où cela a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Il y a un temps pour l'accomplissement de cette parole. Ce mystère consiste en quoi? Continuons. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Réunir en une seule entité. Ce passage nous confirme ce que Apocalypse 21:3 nous dit. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Une entité. Oh Jésus, merci. Je me réjouis. Plus de malédictions. Christ l'a ôté pour toujours. Plus de maladies, plus de larmes. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Cette souffrance par le rejet du monde qui le rejette. Christ a été rejeté, le monde nous rejettera. Christ a ôté la malédiction en la prenant sur lui à la croix. Il fera de la terre le ciel. Il fera de la terre le ciel et du ciel la terre. Comme le mur de séparation entre Dieu et les hommes a été ôté par Christ, de même le mur de séparation entre le ciel et la terre sera définitivement enlevé. Un univers avec toutes choses, ciel et terre, sous un seul chef, Christ Jésus. Le Seigneur, Dieu, habitera avec les hommes. N'est-ce pas un programme merveilleux? Oh, mes frères, levez la tête. Levez la tête quand vous verrez ces choses s'accomplir sur la terre. Levez vos têtes car votre délivrance approche. Le plan de Dieu est qu'il n'y aura plus de gouffre infranchissable entre le spirituel et le matériel. Plus de domaines séparés. Un seul espace, un seul univers, uni sous l'autorité d'un seul chef pour toujours. Ceux qui auront mis toute leur vie en règle avec Jésus dans le temps, je dis bien dans le temps, sur cette vieille terre, auront la joie et le privilège de vivre pour l'éternité sur la nouvelle terre avec Dieu le Père et Jésus le Seigneur et Sauveur devenu homme pour nous. Frères, sœurs, ne baissez pas la tête. Ne vous lamentez pas. Ô Seigneur, la guerre. Ô Seigneur, le péché. Ô Seigneur, la corruption, l'injustice. Oui, c'est vrai. Dans le cœur, nous souffrons, les larmes sortent de nos yeux à cause de ceux qui nous entourent et qui n'ont pas compris et qui ont encore le voile devant les yeux. Mais vous qui voyez, vous qui comprenez, réjouissez-vous car la délivrance approche. Levez vos têtes. Ne soyez pas abattus. Ne vous plaignez pas, je vous en supplie. N'ayez pas ce sentiment de complexe, d'infériorité, qu'on voit encore trop. Oh, voilà, pourquoi nous, peuple noir, nous souffrons de la sorte? Pourquoi nous, peuple noir, nos pays sont tout en déséquilibre? En déséquilibre politique, économique. Pourquoi? Non, levez votre tête. Vous n'avez pas besoin... Demandez à Dieu d'être un noir. Je n'ai pas demandé à Dieu d'être un blanc. C'est ce que Dieu a décidé. Et ce que Dieu a décidé est bon. Et il l'a voulu ainsi. Alors, loin de baisser la tête, je la lève parce que j'ai une espérance en Jésus-Christ. J'ai une espérance qui ne passera jamais. sauvé par grâce, transformé par le sang de Golgotha. Levons notre tête, car notre délivrance s'approche. Nous n'avons pas à avoir honte de notre descendance. Nous n'avons pas à avoir honte de notre parenté ou de notre pays. Non, car en réalité, nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes une nouvelle race. Des hommes changés, transformés par la puissance de Dieu. Transformés par la puissance de Dieu. Sauvés par grâce et par la foi. Et en lui, nous nous réjouissons et nous chantons. Merci Jésus. Baissons la tête. Sommes-nous de son peuple? Sommes-nous de sa race? Sommes-nous héritiers de la vie éternelle? Oh, la porte est ouverte. Et vous êtes invités à profiter. À profiter de l'occasion qui vous est donnée, qui que vous soyez. De l'occasion qui vous est offerte. Qui vous est offerte de pouvoir être membre du royaume. Ô Jésus, êtes-vous enfant, enfant de l'éternité, enfant du royaume qui vient? Vous êtes-vous réconcilié avec le Dieu puissant pour faire partie de ce peuple? La décision doit se faire dans le temps. Après le temps, c'est trop tard. Et nous sommes encore dans le temps. Voulez-vous profiter de cette occasion? Si tel est votre désir, levez-vous là où vous êtes. Vous qui n'avez pas encore choisi, levez-vous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est vous qui êtes votre propre juge aujourd'hui. Et le Seigneur vous invite à faire partie de ce peuple lavé dans le sang de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces personnes qui se lèvent sur les balcons aussi. Oh Jésus, tu connais leur cœur bien mieux que moi. Seigneur, reçois-les. Je t'en prie, et qu'ils vivent par toi. Ô Jésus, la vie, c'est toi qui la donnes. Sanctifie. Sanctifie-les par la vérité. Seigneur Jésus, tu connais leur cœur. Et aujourd'hui, ils prennent cette décision, Seigneur, de changer de camp, de marcher avec toi, de te suivre, d'être des enfants de l'éternité. Touche-les, bénis-les. Montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils aient le courage, Seigneur, de se séparer du péché sous quelque forme que ce soit. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, reprenez vos places. Et Seigneur, nous voulons te demander aussi de bénir et de sanctifier ces offrandes de tes enfants, de ceux qui craignent ton nom. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leur situation. Permets que rien ne leur manque, je t'en prie, mais pourvois leurs besoins. Remplis leur cœur de joie et que cet argent, Seigneur, soit utile. Utile pour le salut des autres, pour l'avancement de ton règne, l'avancement de ton règne dans les cœurs des hommes et des femmes de notre pays. Merci pour ce privilège de participer au salut des autres. Merci, Père.
C'est vers toi que je me tourne, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. Je veux avoir accès à la vie éternelle.
Je veux marcher dans tes voies. Espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.